Moi, je vais juste vous présenter en quelques mots. La Bibliothèque de la Sorbonne, depuis 2 ans, organise conjointement avec les éditions de la Sorbonne une mise en valeur de leur nouvelle publication. Et c'est Ingrid Saillard et Audrey Voyard, ici présentes, qui, au moment où on a prévu le programme de cette année, nous ont dit « mais ça serait bien de faire quelque chose sur les essais d'égo-histoire, la collection dirigée par Patrick Boucheron, etc. » Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on vous accueille. Donc, par ordre alphabétique, Étienne Anam, qui est directeur d'études à l'EHESS, plutôt spécialiste de culture au Moyen-Âge, et donc... votre thèse est là sur Clément VI. donc François Foranda, maître de conférence à Paris 1, professeur Sorbonne, et qui vous êtes spécialiste du contrat. Plusieurs livres en témoignent ici et là. Et vous avez produit donc 2 ouvrages qui, à mon sens, sont très différents, mais je vais vous laisser.
Complètement.
Donc à l'issue de cette petite séance, il y a un pot qui est prévu à chaque fois. Ouais.
Je ne sais pas comment on va s'organiser. Je pense que ça va être un dialogue en fait entre Étienne et moi. Simplement, enfin, je formule des remerciements tout de suite. Je pense que Étienne se joint aux remerciements aux éditions de la Sorbonne et à la BIS pour cette séance de présentation des égo-histoires et donc à Madame Catherine Bredelmas pour son invitation et un choix en tout cas. Moi, j'avoue, enfin, je ne sais pas, Étienne, mais je ne m'attendais pas à faire cette présentation des égo-histoires ici, à la Bibliothèque de la Sorbonne, étant donné, en fait, qu'il s'agit d'un genre littéraire un peu spécial et qui rentre, a priori, pas complètement dans le cadre des publications, disons, scientifiques. Mais je laisse la parole à Étienne.
Donc, on va un peu autogérer la séance. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais il y a un moment où on dit quelque chose qui vous semble qu'il vaut mieux intervenir tout de suite plutôt que d'attendre un moment de question un peu formelle, n'hésitez pas à vous manifester. On n'est pas si nombreux qu'on ne puisse pas discuter tout de suite. On avait réfléchi, François et moi, au lieu de faire une présentation en forme, disons, et de faire chacun un petit papier pour présenter ce qu'on a voulu lire dans un livre, qu'en plus un certain nombre d'entre vous ont lu, à identifier quelques thèmes qui nous semblaient à la fois rassembler ce qu'on avait fait tous les deux et en même temps permettre de réfléchir à des différences assez profondes tout de même entre nos deux livres. Et c'est comme ça qu'on voulait partir de la question de savoir comment on abordait le mémoire de synthèse, officiellement ça s'appelle la mémoire de synthèse, dans l'exercice de l'habilitation, et pourquoi, sans se consulter, mais il y a un effet finalement de sociologie des sciences structurelles, sans se consulter et sans qu'on en ait jamais parlé, puisqu'on se connaît, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on n'a pas parlé du tout de la façon dont on rédigeait chacun nos mémoires. On est arrivé à des objets qui ont évidemment des propriétés extrêmement différentes, mais qui, en même temps, vu de loin, ont quand même des points communs relativement frappants. Et ça, alors, bon, je ne sais pas comment François voit les choses, c'est-à-dire comment lui a abordé le mémoire. Moi, j'ai essayé de réfléchir à la manière dont j'avais conçu l'exercice. Donc, il y a cette habilitation qui est censée pouvoir permettre d'accéder au grade de professeur depuis 1988. Et dans le modèle de l'habilitation tel qu'il a été conçu pour toutes les disciplines d'une manière unifiée, puisqu'il y a un seul décret, en théorie, il y a un exercice qui s'appelle le mémoire de synthèse. Et le mémoire de synthèse, dans beaucoup de disciplines, est pratiqué d'une manière très différente de la façon dont il est pratiqué par les historiens et par d'autres disciplines des sciences humaines et des sciences sociales. Or, de fait, l'habitude chez les historiens, c'est d'exiger, en plus du mémoire de synthèse, un nouveau travail inédit qui n'existe pas du tout dans les textes réglementaires. Et ce nouveau travail inédit, qui est un peu l'héritier de l'ancienne thèse d'État, c'est ce que j'explique au début du livre, il a un effet sur le mémoire de synthèse, puisque normalement, le mémoire de synthèse, c'est là où, si vous êtes en médecine ou en physique, vous présentez 3 ou 4 articles importants et comment vous les avez écrits. Mais cette partie vraiment scientifique, elle a été déportée vers ce nouveau travail inédit dans l'histoire, mais aussi en lettres ou dans d'autres disciplines. Ce qui fait que le mémoire de synthèse a ouvert un espace à une prise de parole réflexive qui n'est pas forcément disponible dans des disciplines plus scientifiques. Et que c'est l'appropriation de cet espace qui finalement est une question posée à tous les gens qui décident d'écrire à un moment donné l'habilitation. Alors après, on peut s'approprier cet espace de façon très différente. Et les gens qui ont fait des habilitations ont choisi des modes de récit qui sont très différents. C'est vrai que le point commun entre nos deux textes, c'est d'y avoir introduit une dimension personnelle assez forte, je dirais.
Oui, tout à fait. Enfin, je crois que même, enfin, si on regarde les deux ouvrages, vous voyez que les tailles sont très différentes. Hein.
Je suis plus bavard.
L'ego-histoire d'Étienne a beaucoup plus de poids que la mienne. Mais ce que dit Étienne sur l'effet de l'appropriation, en fait, de cet exercice d'ego-histoire, je crois qu'il est très... En fait, il est un peu lié, mais on reviendra sur les questions générationnelles. C'est finalement depuis quelques années seulement, en fait, que l'historien s'approprie, je crois... de façon aussi générale, de façon aussi personnelle, en fait, cet exercice d'éco-histoire, puisque à la génération précédente, en gros, génération précédente, ceux qui ont commencé à habiliter à la fin des années 80, début des années 90, avaient un rapport à cette éco-histoire qui était un rapport très administratif, d'une certaine manière. Il s'agissait de faire de l'éco-histoire, de raconter son parcours, et sans entrer dans des considérations personnelles qui étaient finalement, sans doute par le milieu, jugées déplacées, ou en tout cas qui n'avaient pas de place dans les considérations, dans l'évaluation en fait, du travail qui était présenté. Mais ça montre cette appropriation, je crois, quelque chose de plus général, finalement, les historiens, les médiévistes en particulier. Et c'est assez intéressant aussi que le choix qui a été fait ce soir, dont on n'est absolument pas responsable, je crois qu'il n'y a pas eu une politique des éditions de la Sorbonne de nous pousser en fait, à faire cette présentation ensemble. Le fait que deux médiévistes aient été choisis pour... parler de leur égo-histoire aujourd'hui montre peut-être que les médiévistes plus particulièrement ont choisi d'investir cet exercice, et de ce point de vue la création même de la collection par Patrick Boucheron aux éditions de la Sorbonne marque sans doute en fait un avant et un après dans la légitimité en fait de ce type de texte, de ce type de littérature qui avait pour a priori fonction de rester à jamais enfoui dans les exemplaires papier en fait des bureaux de thèse et des réserves de bibliothèques. Alors l'historien médiéviste justement, enfin, ça revient à la question de l'émergence d'individus, par exemple au Moyen-Âge a été discuté, la signature, ce genre de choses, au XIVe siècle des historiens, des chroniqueurs qui affirment également leur identité, et on est peut-être justement nous autres historiens avec ces exercices d'égo-histoire, avec cette appropriation, face à un moment effectivement d'affirmation d'un égo-historien en fait dans l'écriture de ces textes-là, mais celui qu'il faudrait peut-être considérer de façon plus générale, hein, le milieu artistique aussi, en fait la mise en scène des artistes est de plus en plus depuis les années 80-90, de plus en plus forte hein, dans les travaux qu'ils font, dans les jeunes générations. Où on a l'impression finalement que c'est leur personne hein, qui est mise en scène au travers de leur art. Pour les architectes, par exemple, lorsqu'un architecte signe un musée, les gens se déplacent pour voir le bâtiment et pas pour voir les œuvres à l'intérieur. On est peut-être, de façon générale, dans cette affirmation, disons, de ces personnalités. Alors ça a toujours un peu quelque chose de... un doute hein, lorsqu'on écrit ces travaux, puisqu'on est jugé par un jury qui est universitaire. A priori, on est là pour juger des travaux scientifiques et pas pour exposer sa vie. Ce qui donne lieu, d'ailleurs, sur la question de l'appropriation, à un degré plus ou moins fort de liberté par rapport à l'exercice. Mais je pense, pour ma part, qu'on n'est jamais meilleur que quand on s'approprie en fait une commande et un exercice et qu'on détourne en fait cet exercice. Et le détournement s'est fait de façon... assez différente hein, dans le texte d'Étienne et le mien. Le texte d'Étienne, je dirais, beaucoup plus centré sur ce qui fait la qualité du travail d'Étienne et l'identité de son travail, hein, ce dialogue constant entre les sciences sociales et l'histoire. Lorsque vous le présentiez tout à l'heure comme spécialiste de la culture ou de questions culturelles, il faudrait, il y a un moment dans ton égo-histoire où tu parles justement de cette identité, quand on te demande mais qu'est-ce que tu es, historien du XIVe siècle, de la papauté d'Avignon, et puis finalement de la culture, et puis on voit en fait les sourcils se froncer parce que les gens ne comprennent pas du tout. Alors ça ne réglerait rien si je disais que tu étais spécialiste de la sociogenèse des pratiques culturelles au Moyen-Âge, mais en fait c'est quand même un peu ça. Et ce dialogue constant justement avec les sciences sociales, on le sent dans la façon dont tu as eu de replacer, je trouve, ton itinéraire dans une communication constante avec, comment dire, avec les auteurs que tu cites. Un auteur que tu cites pas peut-être dans le titre de ton... Enfin, tu utilises deux fois le mot « travail » dans les titres de tes ouvrages, hein, le travail de l'histoire ici pour ton égo-histoire. Clément VI au travail, c'est le nom. C'est ça. Et je me disais, ce côté travail, hein, qui est le nôtre de l'HDR, doit nous rappeler ceci, c'est la souffrance, hein, si on revient à la question de la définition du travail, hein, c'est la souffrance que représente, enfin, je crois pour nous tous, cette question de l'habilitation, des moments de carrière où on aimerait penser à autre chose et où l'université nous impose finalement ce rituel de passage qu'est l'habilitation et nous impose de faire ces exercices d'écriture qui sont parfois difficiles. Alors, malgré la souffrance, je crois que tous les deux, on a investi l'exercice avec, je ne sais pas si plaisir au départ, mais en tout cas avec un véritable engagement. Et je crois que déjà, l'un des premiers traits communs, je crois, qui apparaît à la lecture des... Enfin, moi, j'avoue que le mien, je n'ai pas pu le relire parce que c'est un texte complètement refroidi et que j'y touche plus du tout. Mais comme j'ai relu l'habilitation d'Étienne, enfin, l'égo-histoire d'Étienne... Aujourd'hui, justement, pour garder ce souvenir assez frais, il y a une véritable sincérité, en fait, de l'historien qui s'exprime ici. Et je crois que c'est un premier point qu'on peut dégager, au-delà des choix différents.
Tu dis, il y a un auteur que je ne cite pas. Quand
oui.
Tu commences à parler du travail.
Oui, parce que je pensais, en fait, moi, quand j'ai vu ça, il y a un article de Bernard Lepetit.
De fait, ouais.
Le travail
j'y ai pensé après. Ouais, ouais. C'est... Mais alors, le fait que je n'y ai pas pensé au moment où je l'écrivais me conduit à un autre point qui, du coup... Ouais. Sur ce qu'on cite et ce qu'on ne cite pas,
ouais.
Puisque toi, la
moi, j'ai fait un choix sans notes.
Les retours. Non, mais de fait, le choix. C'est compliqué de faire un choix avec notes dans un texte comme ça, parce qu'évidemment, on se rend compte après de tous les gens qu'on a oublié de citer et qui ne vont plus jamais vous parler. Ouais. Donc,
non, je ne cite personne.
C'est des choses sur lesquelles je reviendrai quand on atteindra le magnétophone. parce que les gens qui écoutent en podcast ne pensent pas qu'en fait il y a un dispositif d'écoute, mais du coup, je vais quand même rappeler que le dispositif d'écoute a des effets. Voilà, c'est ça. De même, j'aurais expliqué à quel point les médiévistes étaient meilleurs que les autres s'il n'allait pas y avoir des tas de collègues contemporanéistes ou modernistes qui allaient écouter.
Mais ils le savent aussi.
En fait. Bon, et tout le monde le sait, mais je ne le dirai pas. Non, la question des titres du travail, c'est intéressant parce que, bon, tu parlais de souffrance, après, on peut considérer. La question du travail, de notre travail comme souffrance. En tout cas, il y a une question qui m'intéresse dans la façon dont toi, tu as construit ton texte par rapport au mien, puisque si vous avez lu les deux, vous avez vu qu'à la fois, c'était deux textes très personnels, mais qu'ils étaient un peu l'envers l'un de l'autre, dans la mesure où François parle plus de ce qui fait l'historien, alors que moi, je parle plutôt de ce que fait l'historien. Et que de ce point de vue, le statut du rapport à l'intime ou à la personne n'est pas situé tout à fait au même point, alors même qu'on parle souvent des mêmes choses. Et alors, une des questions intéressantes, mais comme tu ne mets pas de notes, on ne sait pas très bien comment tu la réglerais, c'est quel est le statut dans un titre comme Les Retours et dans le fait que tu évoques à certains moments la psychanalyse. Quel est le statut, par exemple, de l'expérience éthique, dont moi je parle un tout petit peu aussi à un moment donné, justement, sur la question du travail, de la perlaboration chez Freud. Et toi, ça reste un peu enfoui. Donc, au seuil de la lecture de ton texte, je me demande quel est le rapport pour toi entre l'écriture autobiographique d'un historien et la question de la psychanalyse.
J'ai pas réfléchi directement à cette question.
Celle-là, je ne l'avais pas donnée comme question. Hein. Je me suis dit que ce sera plus spontané si jamais il répond comme ça.
En fait, oui, effectivement, je suis passé par la psychanalyse, mais la pratique, en fait.
C'est toi qui l'as dit.
Oui, tout à fait. Je crois que ces égo-histoires, elles arrivent toujours à des moments particuliers, en fait, dans les trajectoires. A priori, c'est être censé un moment de maturité. Dans la production, où on est capable justement, c'est j'imagine, bien. D'avoir surmonté un certain nombre de traumatismes, de souffrances, et donc de regarder le passé avec apaisement. Et que ces textes-là peuvent devenir aussi un exercice de, en tout cas, la verbalisation en fait d'une réconciliation avec soi-même, et en tout cas un travail de compréhension de la trajectoire qu'on a pu avoir. Moi, j'avoue que si j'ai choisi ce type narratif, c'est parce que j'avais un problème à régler du point de vue de l'exercice d'habilitation. D'une part, j'ai eu très longtemps en fait pensé que j'avais pas forcément envie de le faire. que j'avais pas forcément envie de devenir professeur, que j'avais pas forcément envie de faire une carrière à l'université, que j'aimais l'histoire, mais après le reste, bon voilà. Et du coup, j'avais à régler en fait la question de comment dire, l'acceptation par moi-même de confronter une nouvelle fois en fait à un exercice qui était en même temps le signe d'un nouvel engagement avec l'université. Et donc d'exprimer l'envie de continuer en fait dans ce système universitaire. Et il fallait que je règle un certain nombre de choses. D'une part, une question en fait que je me suis posée longtemps, une certaine sensation, pas d'usurpation, mais en tout cas d'être un peu arrivé là par hasard, en fonction de trajectoires, de rencontres qui font qu'on devient tout à coup historien, on se retrouve à Paris, qui pourrait être considéré en histoire comme au cœur de l'Empire. Il y a comme ça une sorte de centralité de Paris, qui fait qu'on est toujours un peu étonné d'être là et d'être regardé avec envie, alors que finalement on trouve ça tout à fait normal, et on se dit mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour arriver là ? D'autant qu'en fait mes origines font que j'étais très éloigné en fait du milieu universitaire français, étant donné que je viens d'une famille d'immigrés espagnols en France, arrivée dans les années 60, au début des années 60, qu'a priori j'aurais dû être, je sais pas, si je refais cette généalogie familiale, j'aurais plutôt dû être charpentier en fait dans notre ville andalouse qu'historien à Paris. Il s'agissait de comprendre en fait pourquoi j'étais devenu ce que j'étais, c'est a priori pour les médiévistes, en fait, un spécialiste français de la péninsule ibérique. Alors, vous me direz, comme j'ai des origines espagnoles, ça semblait logique, sauf que je ne voulais pas du tout travailler sur la péninsule ibérique au départ, et finalement, il a fallu que j'accepte ça aussi. Puis, il y a quelque chose aussi qu'il fallait que je règle, c'est, en fait, un mode de vie, en fait, un peu particulier lorsqu'il est regardé comme ça de l'extérieur, qui fait que, en fait, je travaille à Paris, mais en fait, j'habite à Madrid, et que, dès lors, en fait, j'ai une circulation... qui fait que quand je suis là, je suis très présent, mais quand je ne suis pas là, je ne suis pas là du tout. Quand je suis ailleurs, je suis pleinement ailleurs. Et puis en même temps, je suis un peu partout. Et il fallait que je règle, en fait, cette question de géographie intime, en fait. Alors, oui, on peut considérer que c'est, disons, la dernière étape d'un travail psychanalytique, en fait, peut-être, qui avait été engagé dans les années 90 et qui s'achève, en fait, avec ce texte-là. Sauf qu'il y a aussi autre chose qui s'est ajoutée par-dessus au moment où j'ai entamé ce récit, c'est que il se trouve que la vie m'a confronté en fait à, disons, l'expérience un peu précoce d'une part de la mort du père, d'autre part d'un Alzheimer, l'Alzheimer de ma mère, et que ce moment-là en fait fait que ça repose en fait la question de votre identité à certains moments, à la fois dans votre famille en fait et dans les choix que vous voulez faire, et notamment cette question de l'Alzheimer qui pose la question de la mémoire et des origines, la perte de la mémoire, forcément pour un historien, c'est quelque chose d'autant plus difficile. Donc oui, je crois que c'est l'aboutissement du travail psychanalytique. Alors c'est d'autant plus drôle, Étienne, que tu poses cette question-là, parce que l'an dernier, lors d'une sauterie organisée par Patrick Boucheron, qui en organise pas mal quand même, Stéphane Habib était là, que tu connais, hein, qui est psychanalyste, et Stéphane Habib, en fait, je sais pas, on commence à parler, je me souviens plus exactement de comment on est arrivé là, mais tout à coup on parle de la closerie des Lilas et de mon psychanalyste qui avait en fait son divan à côté de la closerie des Lilas, et il se trouve qu'il avait en fait repris une partie de ses patients, hein, puisque en fait Jean Guire, hein, qui était mon psychanalyste, est mort il y a 2 ans à peu près, et du coup en fait on est parti sur une conversation sur Jean Guire en fait, et donc c'était marrant de revoir surgir en fait un an après, en partie en lien avec cette égo-histoire, en fait, le souvenir de ce psychanalyste en fait, chez qui je suis allé 3 ans, effectivement. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, mais je pense que ça explique beaucoup. Enfin, je pense que c'est un élément très important, oui, en fait, de ton texte, et qui explique que les articulations autobiographiques ne prennent pas tout à fait le même tour dans mon texte et dans le tien. Et que, de fait, il y a une traversée généalogique sur la question de savoir, au fond, pourquoi tu es là et ce qui t'a fait l'historien que tu es, que moi je contourne assez volontiers pour des raisons à la fois qui me sont personnelles, et donc si je ne les ai pas exposées dans le livre, c'est que je les garde pour moi, et pour des raisons sociologiques qui sont que sans doute issues de classe moyenne intellectuelle avec une forte attention scolaire, j'ai moins d'interrogations sur les raisons pour lesquelles je suis arrivé là où je suis, et que c'est pas sur ce point-là finalement que l'effort de mon travail à réflexif à porter dans le livre, plutôt sur la question de savoir pourquoi je fais ce que je fais quand je me lève le matin. C'est-à-dire, au fond, quel est le sens qu'on peut donner, qui est une question strictement parallèle. Je crois qu'en fait, beaucoup des gens qui sont universitaires se posent l'une et l'autre, c'est-à-dire, mais avec des dosages différents. Pourquoi ils sont arrivés là et pourquoi ils décident de faire ça une fois qu'ils... C'est-à-dire, pourquoi tous les matins, ils confirment leur choix et quel sens social, politique, éthique, pédagogique ça peut avoir. Or, c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire que même quand on est plutôt persuadé d'être bien là où on est, il est difficile d'être tous les matins certain que le sens du travail universitaire, surtout dans un monde qui est quand même assez bouleversé, et au sein de l'université et dans son extérieur, reste pertinent. Alors, la dimension pratique, disons, dans l'écriture, pour moi, était très importante parce que ça me servait à m'expliquer aussi à moi-même le sens, d'une activité sociale qui est extrêmement pratique. On a beau appartenir plutôt à des catégories de population très intellectuelles, en réalité, une grande partie de notre travail reste quand même aller enseigner, préparer des cours, et que la dimension routinière, disons, fait qu'on ne s'explique pas forcément si souvent à soi-même la manière dont on travaille, la cohérence ou les incohérences éventuelles, qui est une des grandes questions que j'essayais de soulever, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'être cohérent dans des prises de position, de politique universitaire, des manières de faire de la recherche, des façons d'enseigner et de se comporter avec les étudiants, avec les collègues, est-ce qu'il y a des formes de transversalité où on peut défendre des principes qui soient cohérents l'un ou l'autre, ou est-ce qu'il faut forcément de temps en temps sacrifier l'un pour l'autre, est-ce qu'on peut être un bon chercheur en étant un bon enseignant? Alors on aurait très envie de répondre oui, mais en réalité dans la pratique c'est pas toujours évident, et tout ça conduit à des modes de description qui du coup sont un peu différents de ceux adoptés par François. Mais du coup en lisant, ce qui m'a frappé c'est qu'alors qu'on raconte des histoires très différentes et qu'on est relativement différents, il y a des formes d'appartenance générationnelle qui sont évidemment tout à fait saisissantes. Alors pour des raisons structurelles que j'évoquais tout à l'heure, pour des raisons qui sont aussi liées alors à des parcours parallèles, je le dis pour ceux qui n'auraient pas forcément lu les livres, mais il se trouve qu'on a un an d'écart, deux ans d'écart. Qu'on s'est croisé une première fois, on s'est croisé une première fois en classe prépa, ensuite un certain nombre de fois dans notre vie, sans qu'on ait vraiment jamais travaillé au même endroit, ça nous est arrivé relativement souvent. Donc on a des caractéristiques générationnelles, on est tous les deux des hommes, on fait tous les deux l'histoire du Moyen-Âge, on a été socialisés dans les mêmes milieux, donc c'est pas entièrement surprenant. Ensuite, il y a des questions du coup qui ressortent dans le livre et qui posent des problèmes de ce qu'est une génération. Avec les limites de la question de la génération. Donc dans notre cas, il y a des simultanéités qui sont frappantes et qui se prolongent. On a été amusé de se faire la même remarque tout à l'heure en arrivant autour du mouvement de grève des universitaires en 2009, où en fait, alors qu'on n'a jamais parlé de nos textes, on a écrit quasiment les mêmes phrases dans l'analyse du mouvement et dans les conséquences qu'on en a tirées chacun dans notre positionnement ensuite au sein de l'université, puisque l'un et l'autre, ça correspond à un moment où notre investissement dans la politique locale de nos établissements a fortement augmenté à la suite du constat d'échec d'un mouvement dans lequel on avait été tous les deux assez engagés dans nos établissements respectifs. Donc c'est ce genre d'élément, c'est un fait générationnel qui est... je pense, assez frappant. Donc il y a comme ça des jalons dans le livre qui sont des jalons en fait extérieurs et qui ne sont pas forcément des jalons de vie intérieure, puisqu'on ne donne pas par exemple la même place à la soutenance de thèse, à notre parcours d'enseignant, à des choses. Mais il y a des moments comme ça extérieurs qui peut-être resteront pour les gens qui ont été... en gros, qui sont nés au début des années 70 et qui ont fait des carrières universitaires, des points de repère. Et c'est sûr que là, avec à la fois le mouvement sur les retraites et le début des débats sur la loi de programmation de la recherche, pour nous, il est difficile de ne pas penser à tous les débats de 2009 et à la place que ça a pu avoir dans notre trajectoire et dans notre réflexion politique sur les institutions universitaires.
Mais moi, je voudrais en ajouter quand même, parce que malgré tout, nos parcours sont parallèles, effectivement, à 1 an, 2 ans de distance, mais il y a quand même des forts facteurs de proximité. Tu l'as dit, on s'est retrouvés à un moment, on a coïncidé en classe préparatoire. Il se trouve que bah, tous les deux, on est passés par le séminaire de Claude. Il y a eu une relation qui s'est établie avec Patrick Boucheron aussi, assez forte, dans le cadre d'un groupe. Moi, j'étais une pièce rapportée, puisque je n'étais pas normalien, mais c'est Fontenay-Saint-Cloud, en fait, qui a été un vivier, je pense, d'une génération. Mais ce qui est marrant, c'est de constater quand même, quand on y pense, c'est que dans nos cagnes, dans la cagne dans laquelle on a coïncidé, en gros, sont sortis de ces cagnes-là, il y a Vincent Zoulet, il y a Pascal Barthélémy, il y a Anne-Emmanuel Weiss, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet comme ça, de, en gros, agrégation 95 ou 96, qui fait que, bah, aujourd'hui, en fait, on prend les cadres, hein, en gros, universitaires en histoire, et on retrouve à peu près bah, tous ceux qui sont en poste. Donc il y a quand même un phénomène assez marrant, et qui explique, je pense, qu'il y ait ces phénomènes en fait, de lecture, de passage croisé, qui fait que bon, bah, à certains moments, on s'est retrouvé quelque part, et puis on a continué, et du coup, on se retrouve tous à peu près au même endroit. Et je pense que on ne retrouverait pas forcément en fait, cette cohérence de... Comment dire, ces possibilités de pont entre les trajectoires, si, je ne sais pas, moi, on prenait l'égo-histoire d'un provincial qui a fait toutes ses études à Bordeaux, qui d'ailleurs, son égo-histoire ne serait pas publiée sans doute, parce qu'il serait en dehors, comment dire, des réseaux de communication qui font que bah, tout à coup, on décide de publier l'égo-histoire de quelqu'un. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a fait une œuvre qui apporte quelque chose de plus au monde, hein. C'est simplement parce que, en réalité, bah, voilà. Il y a des réseaux de connaissances qui fonctionnent, des gens qui trouvent le texte intéressant et du coup on publie l'égo-histoire. Et je pense que ça quand même, il faut le rappeler, ce phénomène quand même de construction de réseau depuis quasiment le plus jeune âge qui explique cela. Mais au-delà, et moi je coïncide avec toi là-dessus, hein, c'est qu'effectivement on est styles très différents. Moi j'avoue que j'ai fait un choix narratif plutôt que j'avais envie d'écrire un livre plutôt qu'une égo-histoire. Et voilà, j'en ai profité, j'ai écrit un livre. De toute façon en me disant que bah, le jury acceptera bien mon livre. Parce que je m'en fichais d'une certaine manière, en fait, qu'il l'accepte ou non. Parce que je pense que justement, en fait, c'est, j'ai une ancienne membre du jury qui est là, qui ne fronce pas le sourcil, qui me sourit poliment, qui me dit non, non, mais si. Je pense que c'est. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et Valérie, qui est là, Valérie Theiss, a eu un rôle important en me poussant finalement à me lâcher complètement. Sur cette égo-histoire. Mais je pense que c'est important aussi parce que c'est un moment de liberté, en fait. S'il est bien compris, cet exercice de commande, ça peut devenir un véritable moment de liberté d'expression, en fait. Et je crois que c'est là aussi qu'on peut voir la maturité d'un historien ou d'un universitaire, en fait, qui est capable d'affronter un exercice en se présentant avec sa maturité. Mais sur les moments, moi, j'ai été frappé, justement, si les choix sont très distincts, le tien, en termes d'écriture, est plus proche d'une écriture académique, d'une certaine manière sur certains chapitres, même si je trouve que tu as 10 pages au centre de ton égo-histoire, qui, et d'ailleurs tu le dis toi-même, hein, tu dis pour la première fois, tu sors du récit un peu professionnel pour rentrer dans le personnel lorsque tu relates hein, la soutenance de ta thèse, et moi c'est ces 10 pages qui m'ont profondément ému, d'autant plus que j'étais présent lors de ta soutenance de thèse, et donc je me souvenais de ce moment qui avait marqué ma mémoire également. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, effectivement, il y a une chronologie commune, même si légèrement décalée. Il y a ce moment de 2009 qui, pour nous et pour notre génération, est important parce qu'effectivement, ça a consisté à l'arrivée à l'âge adulte, en fait, d'une génération, historienne. Mais ce qui m'a d'autant plus troublé, alors comme tu le dis, malgré tout, on a des personnalités assez différentes, hein, le fait que sur la lecture ou l'interprétation finalement des événements ou de certaines choses, certains passages obligés de notre vie académique, finalement on a la même réflexion, c'est-à-dire on arrive quasiment aux mêmes conclusions. Moi j'ai souligné plusieurs fois le mot malentendu pour 2009, hein, lorsque tu parles du mouvement. Moi je ne sais plus quelle est la phrase que j'emploie pour parler de ça, mais, ou les mots que j'emploie, mais effectivement une lecture qui est, je crois, assez réaliste, en fait, sur le monde universitaire, qui est réaliste et, sincère, et qui prend en compte toutes nos incohérences, en fait. Lorsque tu décris hein, la question de l'incohérence hein, des pratiques professionnelles par rapport aux idées qu'on défend, la question de l'évaluation, ce genre de choses, moi, je me retrouve complètement, en fait, dans ce genre de choses. Et c'est assez étonnant, finalement, de voir qu'on arrive et qu'on coïncide, en fait, quasiment sur la même idée. Sauf que, bien entendu, je crois qu'en même temps, il ne faut pas se leurrer. Hein, lorsque tu parles, ça m'a fait rire à un moment, lorsque tu parles de ton expérience à Sud, hein, j'ai découvert ton côté syndicaliste à l'ENS en montant la section sud. Hein. Ça a duré brièvement. Hein. On ne peut pas considérer que tu sois devenu un grand révolutionnaire à ce moment-là.
D'ailleurs, c'est pas ce que tu
avec la c'est pas ce que tu racontes d'ailleurs, mais la section sud. Mais si j'en parle, c'est le côté aussi où finalement, je crois que tous les deux, il y a aussi peut-être quelque chose qui nous rapproche, parce qu'on est quand même dans une génération où, bon. On ne vient pas non plus en termes d'idéologie de famille qui nous ont poussé vers la gauche, et aujourd'hui on se situerait plutôt sur une gauche molle en fait. J'ai plutôt l'impression, une gauche du centre.
Je l'aurais dit molle, mais.
Ouais, bah, j'appelle ça la gauche loukoum, le centre est gauche loukoum en fait. Hein, mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi un parcours idéologique qui, sans doute, alors toi tu viens de province, d'un milieu. De classe moyenne, conservateur. Hein. Moi, je viens d'un milieu. Alors, j'ai du mal à dire ouvrier parce que finalement, ma famille espagnole ne se caractérise pas forcément par une attache ouvrière. Hein, mais en tout cas, l'immigration fait que dans les catégories françaises, ça vous prolétarise en fait d'une certaine manière, du point de vue des catégories sociales, parce qu'on a du coup l'impression en fait que ça prolétarise les familles. Mais d'un point de vue de l'idéologie, je pense assez proche. D'ailleurs, en fait, une famille plutôt conservatrice en fait au départ, de tradition catholique. Et du coup, en fait, c'est ce parcours idéologique que l'on voit, je pense. D'autres collègues, sans doute, n'auraient pas en fait cette lecture de 2009 parce qu'ils n'ont pas non plus en fait le même parcours idéologique que nous. En fait. Mais en tout cas, cette coïncidence, moi, dans l'interprétation. Alors, il y a une interprétation quand même, il ne faut pas. Je veux dire, quand tu parlais d'échec, c'est toujours en fait la question enfin, de l'échec hein, de 2009 ou pas. Ça n'a pas été complètement un échec, ça n'a pas été une victoire, mais ça n'a pas été complètement un échec non plus. On peut être un peu plus nuancé, disons.
Non, mais je.
Là, tu as été radical, je trouve.
Ouais, pour une fois, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit. Non, mais c'est intéressant parce que ça pose la question de l'outil générationnel, je pense, de plusieurs façons de revenir sur ces bouquins de cette façon-là. Et il y a ce que tu as décrit de notre génération, alors effectivement, qui correspond à des systèmes de réseau qui sont des systèmes relativement classiques et dont on peut faire la généalogie dans un système français très centralisé, où finalement, génération après génération, des groupes de gens qui se connaissent depuis longtemps, ce que j'explique souvent à mes doctorants, hein, je veux dire, ils vont en prendre pour 30 ans avec les gens avec qui ils sont, donc ils ont plutôt intérêt à essayer d'envisager sérieusement le problème. Donc il y a ça. Après, il y a aussi des coordonnées qui sont à la fois institutionnelles et historiographique, c'est-à-dire que je pense que notre génération, si elle peut se décrire aujourd'hui, si elle est une génération qui peut se décrire comme une génération plus qu'une autre, c'est pas simplement parce qu'elle a été plus habile en termes de réseau, ce qui est peut-être vrai aussi. C'est aussi parce que elle se situe à un double moment, je pense, mais je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, qui est d'abord un moment socio-institutionnel assez particulier, dans lequel on est en fait la queue de comète d'un temps où l'université disposait quand même de ressources encore assez généreuses, qui fait qu'on a pu, dans notre génération, entrer assez massivement et assez commodément dans l'enseignement supérieur sans trop d'obstacles, ce qui ne serait pas du tout le cas aujourd'hui, et ce qui n'a pas été le cas d'un certain nombre de générations plus anciennes, c'est-à-dire qu'en fait on appartient à des générations qui ont enseigné très peu dans le secondaire. La plupart d'entre nous ont fait ou bien pas de passage, ou bien un passage très court en enseignement secondaire, ce qui n'a pas du tout été vrai de gens qui ont été parfois nos professeurs, et qui n'est plus du tout vrai. Donc ça, c'est un effet, je dirais, socio-institutionnel qui est important. Et un effet historiographique aussi, dans la mesure où on a commencé nos études, disons, supérieures, à un moment qui correspond à peu près... Pardon. À la chronologie de ce qu'on appelle entre guillemets la crise de l'histoire, et que l'effet, je dirais, d'écroulement ou l'effet de délitement d'un certain nombre de systèmes interprétatifs nous a donné à la fois une forme de liberté, de responsabilité, d'ouverture dont on a pu profiter plus que d'autres, je pense, et à cet égard, même si ça pouvait avoir un côté légèrement perplexifiant de lire ce qui s'écrivait quand on était étudiant, que ce soit Revel, Chartier, Cerutti. En même temps, il y avait un côté stimulant qui a aussi été générationnellement un atout, je pense. Et du coup, voilà, je pense que la dimension de réseau correspond à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aurait pas forcément, même à l'intérieur d'une même classe d'âge, les mêmes façons de l'analyser. Et ça, j'ai été assez sensible en découvrant le volume Génération historienne qui a été dirigé par Yann Potin et Jean-François Sirinelli, au sein duquel il y a cette section centrale qui rassemble des témoignages, disons, on peut dire autobiographiques, hein, et qui donc vont de gens qui sont nés fin des années 30 ou début des années 40 pour les plus anciens, jusqu'à début des années 80. Enfin, Guillaume Calafat qui est là, tu dois être un des plus jeunes à avoir écrit dans le volume. Hein. Je ne voulais pas te t'outer, mais enfin bon. Et ces textes, alors, sont des mini-autobiographies et c'est des mini-autobiographies qui diffèrent très profondément les unes des autres. C'est-à-dire, on voit très bien que tous ceux qui sont d'avant l'HDR, ça a été une sorte de rattrapage, donc ils ont pu raconter leur vie. Je ne citerai personne, mais enfin, il y a des textes qui sont vraiment d'un autobiographisme patent. Et puis ensuite, chez les gens de notre génération, la question... Du coup, se pose en termes de permutation sociologique, quel choix on fait. Et là, je me suis aperçu que historiographiquement, on fait des choix très différents. C'est-à-dire, si on prend le choix qu'a fait François de raconter son parcours biographique, mon choix, qui a été mis en question la seule fois où j'ai discuté ce bouquin à l'EHSS, au CRH, ça a été pas mal discuté. Le choix de quelqu'un d'autre avec qui je travaille beaucoup et qui a aussi un an d'écart seulement avec moi, qui est Antoine Lilti, qui a écrit un chapitre dans ce volume, ce sont des choix très différents. C'est-à-dire, quand on dit, bon, vous êtes historien, qu'est-ce que ça veut dire votre génération ? Eh bien, par exemple, moi je me suis aperçu, mais je n'y avais jamais pensé avant, que ma réponse, elle est très historiographique. C'est-à-dire, quels sont les événements qui ont fait de vous un historien ? Je citerai des livres que j'ai lus à quel moment, au début des années 90, à la fin des années 80, dans ma formation. Et le texte de François, par exemple, choisit d'autres types d'événements personnels. Et le texte d'Antoine en choisit encore d'autres. Par exemple, Antoine, il commence avec la question de la chute du mur, 89, et ensuite il thématise sur des événements qui sont pour moi des macro-événements politiques. Et c'est même pas que je trouve ça absurde, parce que ça me paraît intéressant à réfléchir, c'est que ça m'a pas traversé l'esprit. C'est-à-dire que quand on me demande pourquoi je fais de l'histoire ou comment je me situe historiographiquement, je dis bah, pourquoi je fais de l'histoire, je donne tout de suite une réponse intellectuelle. C'est-à-dire, je fais de l'histoire parce que j'ai lu à certains moments des livres, et puis que dans la chronologie dans laquelle je me situais, en histoire médiévale, on écrivait ça, ça et ça. En épistémologie, en historiographie, on écrivait ça, ça et ça. L'idée que je puisse faire de l'histoire de telle ou telle façon parce que le mur de Berlin est tombé en 89, pour moi, c'est très surprenant, en fait, formulé comme ça. Alors qu'au fond, c'est à peu près ce que dit Antoine, et ensuite, il se situe essentiellement par rapport à l'histoire avec un grand H, quoi. Donc là, je pense qu'on a aussi des expériences qui peuvent être extrêmement différentes dans notre perception de ce que c'est que de faire de l'histoire. Et je m'aperçois à quel point ma perception est mesquine et étroite, hein, par rapport à l'ampleur de vue de certains de mes collègues. Mais du coup, elle est confinée, en tout cas, à un monde qui est un monde de livres. Alors que je sais qu'il y a des tas de gens depuis le 19e siècle qui ont fait de l'histoire parce qu'ils croyaient dans la révolution, ou dans la contre-révolution, ou dans qu'ils étaient caressés par le vent de l'histoire. Et alors là, je me sens, du coup, enfermé dans ma bibliothèque.
Mais, tu vois, je voudrais réagir à ce que tu dis sur l'effet générationnel et sur les générations, parce que moi, c'est une question, justement, que je vais te poser en 2009, la question des générations. Et ça, je le redis ici publiquement, et Jean-Philippe est là, d'ailleurs, qui fait partie de la génération antérieure, en fait. J'ai l'impression que nous... Non, mais, justement, antérieure, mais l'autre, en fait. Et parce que je crois que si on fait génération, en fait, justement, nous, ce genre de choses, je pense que... je me demande s'il n'y a pas eu un déficit de génération intermédiaire, en réalité, entre Jean-Philippe, par exemple, la génération de Jean-Philippe, de Claude et nous. C'est-à-dire que des gens qui sont encore et qui vont prendre prochainement leur retraite, en fait, à l'université, qui n'ont pas été des voix porteuses ou des voix organisatrices de l'université, comme a pu l'être Jean-Philippe, qu'a pu l'être Claude. Et je me demande si notre existence ou notre identification comme génération ne tient pas peut-être à une certaine faillite, disons... universitaire d'une génération intermédiaire qui n'a pas été celle qui a créé les universités dans les années 70, en gros, ça c'est la génération de Jean-Philippe, mais qui est arrivée aux commandes plutôt dans les années, disons, allez, fin des années 80-90, en fait, qui était là pour succéder justement à cette génération. Et nous, on arrive comme troisième génération depuis cette vague de création. Et je pense que, voilà, moi, c'est mon idée en tout cas, sur cet effet générationnel qui fait qu'on est peut-être plus identifiable aussi. Mais plus identifiable aussi parce que la question de la production de la recherche, la question du pouvoir à l'université, de l'influence, ce genre de choses a profondément changé. Et peut-être est-on une des premières générations à la fois à se battre contre la transformation de l'université, mais en même temps d'avoir complètement en fait épousé les transformations, si ce n'est à les avoir poussées parfois. Je veux dire, on a tous candidaté à des choses. Étienne et moi, on est de ce point de vue un peu des losers de l'université. Je crois qu'il faut rappeler aussi cela qui nous rapproche.
Il va expliquer, ça paraît bizarre comme
non,
ça,
non, mais il va expliquer. Étienne et moi, on est vraiment des vrais losers. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est présenté plusieurs fois, lui et moi, à l'Institut universitaire de France. On n'a pas été foutus en fait, d'avoir l'Institut universitaire de France. Tous les deux, on s'est fait refuser un renouvellement de délégation au CNRS. Je crois que sans examen des dossiers, je ne sais plus exactement, mais bref, enfin, on s'est fait bouler. On s'en est remis, mais je vais reparler là. On a connu un certain nombre d'échecs. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. D'ailleurs, j'ai perdu le fil de mon propos. Je ne sais pas pourquoi je disais ça.
Si, sur la description de ce que c'était.
Ah oui, la transformation. On est un peu quand même des losers d'université, mais en même temps,
on a participé
en fait à cette transformation, et notamment la question de la culture de projet, de l'évaluation, ce genre de choses. En fait, finalement, on a complètement accompagné ce mouvement-là et on l'accompagne encore aujourd'hui.
Alors, on peut discuter sur l'analyse de notre participation active à la destruction de l'université, qui est en fait une question.
Non, mais je ne crois pas à la destruction. Moi, je ne parle pas en termes de destruction. Je refuse ce côté. Enfin, destruction, ça veut dire qu'en fait, les choses existent pour une fois, qu'il faudrait conserver et qu'il ne faut pas y toucher. Sans destruction, ça fait comme un édifice. Non, je pense que des institutions, ça vit, ça se transforme. Je ne sais pas s'il faut parler de destruction, mais en tout cas, il y a une transformation de l'université. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, ce qui est étrange, c'est qu'on est. Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on regarde encore. On a on est rentré relativement facilement à l'université par rapport à, mais pas par rapport à d'autres générations antérieures à nous, parce que en fait, c'est justement à notre génération que ça a commencé à se compliquer en fait l'accès à l'université. Moi, j'ai fait 2 ans dans le secondaire. Certains de notre génération ont dû commencer à attendre 3 ans avant de rentrer à l'université. En fait, c'est là que l'entrée à l'université a commencé à se compliquer, parce que la génération qui en a profité à plein réellement, c'est celle de Patrick.
C'est celle que tu dénonçais auparavant comme n'ayant pas pris ses responsabilités.
Oui.
Mais on est même encore du bon côté de la barre, quoi, disons.
C'est-à-dire que nous, on a été encore, disons, portés par ces logiques encore d'accès relativement facile à l'université, qui ne sont plus du tout aujourd'hui, maintenant, qui sont devenus complets. Enfin, on connaît tous des cas de qui sont restés quasiment 10 ans sur le carreau avant d'obtenir un poste de maître de conférence à l'université. Et c'est le vrai changement générationnel. Et là, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un taxi avec Émilie Rosimbly et Yann Botin, deux autres médiévistes. Je sais pas, on a parlé des retraites et en gros ils m'ont dit toi de toute façon t'auras une grosse retraite, effectivement, parce que le couperet est tombé à 75 et moi je suis de 71. Et toi, quoi, je me sentais en fait dans ce taxi comme une sorte de ville bourgeois avec sa future grosse retraite par rapport à cette génération. Mais elle est là en gros, la coupure, hein. C'est-à-dire que cette génération de cette coupure 75, cette génération en gros de gens qui ont autour de 40 ans, 42 ans, c'était beaucoup plus difficile pour eux. Et ils sont dans une situation plus précaire. Et alors ceux qui maintenant cherchent à rentrer, là, on n'en parle même pas. Hein, parce que, on n'en parle même pas du point de vue de la difficulté, en fait, à poursuivre, en fait, à rentrer à l'université, ou alors au prix de suivre complètement le mouvement actuel. C'est-à-dire sans cesse, tous les six mois ou tous les ans, en tout cas, préparer plusieurs projets de recherche, les envoyer ici et là, et se transformer en mercenaires, en fait, d'un système de recherche afin de répondre à ces appels à projets, de pouvoir vivre, sans forcément pouvoir construire sa vie. En fait, il y a cette différence, je crois, entre
Heureusement.
Nous.
Je ne voulais pas être pessimiste parce que tout à l'heure, tu me trouvais radical.
Non, alors, oui, mais il y a cette différence entre eux et nous, c'est que nous, je pense, on a pu construire nos vies. Moi, je suis. Quand je parle de construire nos vies, c'est à faire nos choix personnels, enfin voilà, s'installer ici ou ailleurs et construire nos vies. Et pour eux, ça devient très difficile. Et alors, pour les femmes, en plus, c'est encore plus compliqué.
Donc, s'il y a des doctorants. Très simple. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est devenu plus compliqué, c'est plutôt que.
Non, mais
comme toujours en période de crise.
Bah, c'est les plus fragiles qui.
La différence de genre en période de crise a des effets encore plus négatifs.
Disons, ça accentue.
Ça accentue les choses, mais c'est sûr que ça a des effets. Mm. Et alors, après, en termes générationnels, peut-être pour finir cette question qu'on a essayé de décrire, on n'avait pas forcément prévu de parler que de ça, mais. Il y a un dernier aspect qui me semble important si on veut décrire les mutations générationnelles, c'est la question politique, là, qui est plutôt publique. C'est-à-dire la question du changement de comportement des historiens et des historiennes comme corps à l'intérieur de la prise de parole publique, les interventions dans les médias, les formes d'action. Et parce que là aussi, j'ai le sentiment qu'il y a eu des inflexions assez fortes par génération, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est-à-dire à quel point il y avait une génération qui, rétrospectivement, paraît une génération extrêmement fortunée, hein, qui a été la génération, de Jacques Le Goff et de Georges Duby, jusqu'aux plus jeunes de cette génération-là, seraient des gens comme Arlette Farge, qui ont tenu des positions publiques. Politique au sens faisant intervenir les historiens, les historiennes dans la cité. Et puis, là aussi, je dirais que ce moment très caractéristique des années 70 aux années 90, il a connu un temps faible qui correspond au moment où nous, on était étudiants et aussi où on était jeunes chercheurs et jeunes enseignants. Et là, par exemple, c'est quelque chose dont je parle dans le livre. Moi, j'en prends ma part de responsabilité dans le sens où j'ai plutôt grandi dans un monde où la perspective du rôle de l'historien, pour moi, était plutôt du côté de la professionnalisation que du côté de la prise en charge, d'un discours public sur France Culture ou dans le monde, ce qui me semblait un peu décalé et à la limite parfois d'une forme de simplification outrancière ou d'une forme de transformation de mon métier que je ne reconnaissais pas forcément. Et là aussi, je pense qu'on a fait partie d'une génération qui a fait l'expérience, et qui une expérience qui n'est pas près de s'arrêter, d'une subversion de ce qui nous semblait être les bases des démocraties occidentales classiques telles qu'elles avaient pu à minima se constituer entre les années 70 et les années 2000, c'est-à-dire la remise en cause de toute une série de choses pour lesquelles il nous semblait même plus si important que ça de s'engager, tellement elles nous paraissaient acquises et qui aujourd'hui sont fortement remises en cause. Alors évidemment, ce n'est pas les historiens plus que d'autres qui sont responsables de ça, mais disons qu'on voit bien comment une forme de désengagement de la parole publique, entre autres les historiens, a suscité dans certains secteurs la résurgence de comportements et de positions, entre autres instrumentalisant l'histoire, qui sont extrêmement graves dans le processus global, de déconstruction ou de destruction de ce qui a quand même été les acquis démocratiques et sociaux des sociétés européennes. Et là, je crois aussi qu'il y a une dizaine d'années aussi, et dans le livre, au fond, pour moi, les deux points de repère, c'était 2009, le mouvement
et l'affaire
social, et 2008, l'affaire autour du livre de Sylvain Guggenheim, qui sont des points de repère assez forts de ce point de vue, d'un réinvestissement dans la parole publique. Et on parlait tout à l'heure de Patrick Boucheron, qui a effectivement joué un rôle important pour François comme pour moi. Je pense que ça a été un des premiers et un des plus investis dans l'idée qu'il fallait que les historiens reconquièrent une part de l'espace public. Et je pense qu'on ne comprend pas très bien ce qu'essaye de faire Patrick depuis plus de 10 ans si on ne l'inscrit pas dans cette chronologie et dans cet effet générationnel. C'est-à-dire l'idée que peut-être que collectivement, à un moment donné, on a fini par céder tellement de terrain que les gens peuvent prendre au sérieux, Éric Zemmour ou d'autres gens, à un moment où finalement la place publique des historiens, la pédagogie, une forme d'éducation qui dépasse les limites de l'université, avait été un peu abandonnée, ou du moins était un peu en retrait. Et ça, alors de fait, on est assez nombreux à courir après le temps perdu, tout en se disant que c'est sûr qu'il s'est joué quelque chose dans des années 90-2000 qu'on pensait sans doute plus tournée vers le progrès qu'elle ne l'était de façon souterraine à l'intérieur de la société française, mais qui du coup nous incite aujourd'hui à avoir à la fois plus d'engagement et plus de pessimisme, ou plus de prudence au moins sur certains terrains. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais moi, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé sur le chapitre où tu abordes l'affaire Guggenheim, en fait, je ne m'en souvenais plus. C'est très drôle, mais je ne m'en souvenais plus dans... Mais parce que c'est lié au fait que j'habite entre Madrid et Paris et que du coup, j'ai pas tout à fait, en fait, le même rapport à cette question-là. Mais pour une raison de la place de l'histoire dans l'espace public, en fait, dans les deux pays, hein, en Espagne et en France, où il y a une place de l'histoire publique, hein, ce qu'on appelle l'histoire publique en France, qui est beaucoup plus forte, qui est liée à la façon aussi, finalement, dont s'est construit la République, la nation française, et l'importance qu'elle a donnée à l'histoire, et qui fait que la nation, hein, la République, a finalement donné aux historiens et aux professeurs d'histoire, et notamment l'instruction civique, une question, un rôle, hein, particulier, une mission particulière, je crois, ici, dans la forge et le maintien de cette République. On n'est pas tout à fait confronté à la même question, je crois, en Espagne, où finalement, alors ça commence à changer, mais ça pointe en fait un problème qui se pose, je pense, sur cette question-là en France aussi, où finalement l'historien n'est pas sans cesse convoqué obligatoirement, en fait, pour participer au débat public, hein, que en fait le débat public se joue sur d'autres têtes, avec une place plus importante déjà qu'elle ne l'était en France, de justement d'Éric Zemmour, c'est-à-dire en fait de journalistes pseudo-historiens qui interviennent dans l'espace public. Or, mais ce qui se passe justement en France montre quelque chose, c'est que le rattrapage en quelque sorte, mais régressif en fait, qui s'est passé en France si on compare avec l'Espagne, où le terrain de l'histoire était finalement complètement tenu, avec une divergence totale entre l'histoire universitaire et l'historien professionnel débat public, alors qu'en France on avait toujours cette participation. Et le problème, je crois, fondamental que pose justement l'investissement de ces histoires publiques par finalement des gens qui ne sont pas forcément historiens, et l'affaire Guggenheim notamment, c'est une difficulté que tu poses dans ce chapitre-là, je crois qu'on s'est trouvé, mais ce qui explique sans doute l'engagement aussi, finalement démuni en termes d'armes par rapport à ces questions-là, parce que en fait, on ne parle pas la même langue. En fait. Il est très difficile en termes de langage, comment dire, de pouvoir parler dans l'espace public et de contrer en fait ces paroles-là, parce qu'on est dans des logiques scientifiques qui ne sont pas en fait les logiques publicistes de l'histoire dans les espaces publics, et je pense qu'on a là une difficulté en fait à régler, alors qui est justement, je pense, en train de se régler en fait par notre génération. Et l'affaire Guggenheim, lorsque tu en reparles, et je me souviens des colloques qui avaient été organisés, des rencontres qui avaient été organisées pour justement débattre scientifiquement du livre, sauf qu'en réalité cette réponse scientifique, elle a sans doute pas toujours percé dans la société. Il y a une vraie difficulté, et je pense que là-dessus le choix qu'a fait, par exemple, Patrick, Yann, Pierre Sagaravelou, j'en oublie un ou deux, Florian Mazel était aussi dans l'histoire mondiale de la France, je ne sais plus. C'est ça, hein, il y en avait un autre. Voilà. Le choix qu'a, je me souviens de la feuille de route, qui était d'écrire pour le grand public, de nous obliger à changer notre manière d'écrire et à écrire pour le grand public. Et je crois que ce travail-là, il faut qu'on continue à le faire pour ne rien oublier en fait de nos méthodes scientifiques, mais tenter de le dire autrement et d'approcher en fait une langue qui soit perceptible par le grand public. Et je crois que ce défi-là, en fait, il est en tout cas, c'est celui auquel se confronte sans doute notre génération. Mais je constate, par exemple, que du côté de l'Espagne, en fait, il est complètement perdu, en fait. Hein. Et là, comment dire, la remontée avec les gouvernements de gauche, de discours de la droite qui réinvestissent en fait les questions autour de la mémoire historique, certaines thématiques, avec en plus le transfert de la dépouille de Franco dernièrement, tout ça s'agite beaucoup. Hein. On a un espace public où l'historien n'a pas du tout sa place. Donc je crois qu'il y a une spécificité française, un défi qui est plus général, c'est celui de de comment passer d'un discours construit scientifiquement à un langage qui ne soit plus perçu comme cela, mais qui soit lisible en fait pour tous, mais sans rien renoncer en fait à la rigueur scientifique. Et je crois que c'est cette langue-là qu'on avait peut-être perdue par rapport à des Jacques Le Goff, à des Duby, qui avaient cette capacité en fait à parler. Mais je crois que c'est lié à un problème qui n'est pas seulement celui de l'historien. La professionnalisation en fait s'est produite dans tous les domaines. Entre la culture d'un médecin ou d'un ingénieur au début du XXe siècle, hein, je pense à mon copain de Cagnes, aussi Guillaume Cuchet, qui est un peu obsédé par la décadence de la bourgeoisie française, mais qui, lorsque l'on prenait quelques bières à la sortie des cours, hein, me disait « mais tu te rends compte, c'est fou, en fait, avant, tu rentrais chez un ingénieur, la première pièce qu'on voyait, c'était sa bibliothèque ou chez un médecin. C'est plus du tout le cas. Il y a cette perte, je trouve, dans la professionnalisation et l'ultra-spécialisation, en fait, d'une langue commune, hein, qui est finalement une langue peut-être plus citoyenne, en fait, que nos langues professionnelles. Quoi. Et c'est peut-être ça qu'il faut réinventer.
Ça me paraît le moment
d'arrêter
de dialoguer et de peut-être avoir une discussion plus générale. J'ai plus rien à rajouter à la conclusion.
Bah non,
improvisé mais magnifique.
Comme je suis le plus vieux, je vais intervenir. Mais oui, je pense justement que vous parlez de Le Goff et Duby comme si c'était vraiment un âge d'or. Voilà, cette période était un âge d'or. Mais pour l'avoir vécu, c'était pas du tout ça. Personne n'écoutait Le Goff et Duby. Et que dans le petit milieu des historiens, on écoutait beaucoup, évidemment, et Duby et Le Goff, et le Roi Ladurie et bien d'autres. Mais dans la rue, personne ne les connaissait. Il n'y avait pas les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que...
Il y avait les grandes messes télévisées aussi. Il y avait les grandes messes télévisées. Il n'y avait que trois chaînes et il y avait apostrophe. Je veux dire, par là, c'est un monde de communication qui est différent.
Quand j'étais étudiant, moi, en 64-68, d'abord, peu de gens avaient la télévision.
Oui, bien sûr.
Et puis, il y avait très très peu de choses véritablement culturelles. Parce qu'il y avait des pièces historiques, des choses comme ça. Mais lui, Le Goff, non. On les a vus un peu après. Mais de toute façon, d'une façon générale, je trouve que vous pensez en idée, c'est très bien, c'est normal, hein, c'est le ressenti, c'est ce que vous avez vécu, mais vous ne voyez pas assez les nombres. Parce que les recrutements dans l'université française, c'est vraiment complètement cyclique. Et si vous avez eu cette impression que les choses étaient un peu ternes en 80-90, pendant le moment où vous étiez étudiant, c'est d'abord une question de nombre. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme recrutement de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, après 60, enfin, en 68, et c'est ça, et tout de suite en 71. Et après, où sont allés les gens? Là où il y avait des postes, il y avait... Alors c'était un tout petit peu à l'école des hautes études. Mais tu connais les rythmes de recrutement de l'école des études, c'est pas quand même faramineux. Hein. Il y avait le CNRS qui à l'époque recrutait quand même
très sensible à l'approche quantitative.
Et ça a totalement disparu.
Je vais y revenir aussi.
Et puis il y avait les toutes petites universités de province qu'on a créées à ce moment-là et dont les recrutements ne sont pas forcément pour de bonnes raisons, mais on recrutait localement des gens qui étaient là. Hein, et voilà, donc il y a eu en tout cas un rétrécissement considérable du milieu pendant une quinzaine d'années. Et vous avez été une génération bénie parce que vous êtes arrivé très facilement à l'université. La génération qui s'est... c'est toujours difficile.
On a été la fin.
Eux, ils ont eu de la chance, mais c'est pas la génération bénie. C'est que quand on a commencé nos études, il y avait 20-25 postes en histoire médiévale.
Enfin, c'est ça.
C'est un truc de fou, inimaginable.
Bien sûr.
Et quand on a fini nos études, il n'y en avait plus. Ouais. Il y en avait entre 3
et 5. Le grand moment quantitatif
oui.
correspond à celui dont parle François, c'est-à-dire...
Ça s'est ouvert, disons, en 95, enfin, c'est la fin des années 90.
Ouais. Non, ça s'est ouvert avant. Ça s'est ouvert avant.
Le problème de l'histoire incitative, c'est qu'on n'est pas d'accord sur
le CNRS. Le CNRS a disparu complètement. Si on est quantitatif, c'est les gens qui sont... Les médiévistes étaient sur deux sections et demie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que sur une seule section où ils représentent un tout petit...
Écoute, la flambée des postes, Jean-Philippe, t'en termines bien, je me souviens, puisque à Tolbiac, j'ai eu Patrick Bouchon, qui était jeune allocataire de recherche, c'était en 89. Et que là, c'était le temps béni. C'est-à-dire que les postes étaient...
Entre la fin des années 80 et la fin des années 90.
Et donc, en fait, c'est ça. C'est entre la fin des années 80 et le début des années 90.
Qui correspond d'ailleurs aux créations. C'est ça. Mais et après, qui correspond aux créations des universités nouvelles en région parisienne.
Bah oui.
Vous êtes arrivé à la fin de ça, voilà. C'est
ouais,
ça.
Bah c'est ça.
Et maintenant, non, c'est fermé, fermé.
C'était en 2006.
Je dis ça pour les...
Mais du coup, quel est l'effet historiographique de ça sur notre lecture générationnelle, Jean-Philippe?
Oui, parce que je... On n'avait pas tort.
Parce qu'on avait l'impression que tu disais que là, on avait tort et que tu n'étais pas d'accord avec
nous. Il ne faut pas s'opposer pour s'opposer.
L'effet historiographique, c'est que vous êtes resté très le goff du bill, mais vous avez perdu une partie des choses de la génération, disons, qui est, des gens qui étaient étudiants, justement, du bill le goff et tout ça. Et ils n'étaient pas étudiants seulement du biais de Le Goff, ils étaient étudiants de beaucoup d'autres champs. Et justement, l'histoire quantitative vient là parce que nous, on a encore connu vraiment l'histoire quantitative. Mmh. Tandis que vous, dans votre formation, vous en avez connu relativement peu et l'histoire quantitative s'est perdue. Hein. Ça, c'est un fait. Voilà. Je crois que je ne veux pas couper la parole parce que...
Non, je voulais dire exactement la même chose que vous. Et pour vous dire que finalement, les années 60-70, par exemple, ont été... Moi, quand je suis à la fin... Les études à la fin des années 70, ben, il n'y avait en histoire absolument aucun poste. Il n'y avait aucun poste. Et les gens traînaient 10 ans en lycée, souvent en lycée, avec le problème qu'il fallait faire cette fameuse thèse de doctorat d'État de monument, et les gens ne pouvaient le faire que pendant les vacances. Et puis il n'y avait pas de. Aussi, c'est. Enfin, il y avait d'autres avantages par ailleurs, mais par exemple, les bourses de thèse, etc., ça n'existait pratiquement pas. Simplement, à la fin, quand les gens avaient pratiquement fini, ils avaient un an ou deux ans, de, éventuellement, s'ils avaient de bons réseaux, comme vous disiez, on ne disait pas cela à cette époque-là, bon, c'était ça, ils avaient un ou deux ans au CNRS pour rédiger. C'était à peu près comme ça que ça se passait. Et moi, j'ai connu, en plus, il y avait l'idée, par exemple, pour des Normaliens, par exemple, qu'il fallait qu'ils aillent dans des lycées durs et on les envoyait dans des lycées technologique à faire de la littérature ou faire de la philosophie, etc. Donc il y avait des situations dures. Moi, je voudrais intervenir sur deux mots que vous avez prononcés l'un et l'autre au début et sur lesquels ensuite vous n'êtes pas du tout, parlé plutôt d'actualité d'une certaine façon. Le premier, c'est le mot genre. Vous avez dit que ces ouvrages sont un genre que vous avez qualifié de peu scientifique. Je sais pas très bien. Enfin, c'est un genre. Donc, un genre, ça veut dire, dans le sens, hein, des normes, des règles. Bon. Or, au début, quand l'habilitation s'est mise en place, et encore maintenant, quand on regarde les textes, jamais ça n'a été précisé. Finalement, c'est un genre, au départ, qui part sans normes, sans règles. Et aussi, au début, les gens dont vous avez parlé, qui allaient un peu, ben, ils allaient parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et aussi parce qu'ils allaient se présenter à un moment donné, devant des gens qui avaient fait la thèse d'État, qui peut-être avaient parlé contre la thèse d'État, mais enfin, quand ils étaient en face de gens qu'ils n'avaient pas faite, ben, ils reprenaient un certain esprit de corps. Donc, au début, les gens, et il y a des ouvrages qui ont été publiés, il y a un linguiste, par exemple, qui a publié comme ça son... C'est pas une histoire, mais bon, qui a publié ce texte, et il dit... Il ne savait pas comment faire au début, il ne savait pas comment arranger ça. Bon, comment parler un peu de lui, ça c'était un gros problème. Alors que maintenant, disons, je pense que parler de soi est quelque chose de très fréquent, et une véritable, si on regarde bien, il y a une véritable effervescence autobiographique, que ce soit des autobiographies, des entretiens, tout le monde fait des entretiens, parle de soi. Donc c'est un genre un peu qui s'est constitué progressivement, et qui s'est aussi constitué, à mon sens, je pense, par imitation. Et ça, je vous le dis parce que pour des recherches que j'ai faites, moi-même tout à fait autre, je ne suis pas historienne, tout à fait autre, je me suis rendu compte que ben, les gens sont allés lire les prédécesseurs, quoi. Et comme par exemple pour les leçons au Collège de France, c'est exactement la même chose. Et on voit des motifs qui reviennent, des choses qui ont dû plaire, qui sont à la mode, etc. Donc, je voudrais vous interroger beaucoup plus sur cette notion de genre. Et la deuxième, le deuxième mot qui a été prononcé, c'est le mot travail. Et finalement, on a l'impression que, ben, peut-être que je n'ai pas lu vos ouvrages, je pouvais le faire, mais c'est que, non, mais non, c'est que finalement, l'historien comme l'ethnologue, etc., les gens qui travaillent. Donc, et je voulais savoir aussi comment vous décrivez finalement ce travail, par exemple, à vous entre deux pays, vous finalement, vous dites le matin, je me dis, est-ce que c'est un historien, j'ai une cour, qu'est-ce que. Bon, il y a aussi, comment vous décrivez votre métier d'une certaine façon, et au niveau vraiment matériel, pas au niveau, au niveau du travail, vraiment du travail de chaque jour, et pas au niveau des idées ou de l'engagement politique qui peut être fort. Et, vous avez cité des gens qui s'investissaient beaucoup, mais vous en avez oublié un qui, alors là, c'est ultra investi, c'est du Pierre Vidal-Naquet, hein, ça je dois dire, au politique. Mais au-delà de ces aspects-là, cette quotidienneté, est-ce qu'il y a quelque chose dans vos livres sur ce phénomène-là?
On commence par quoi?
Le genre ou le travail?
Tu fais travail-genre ou on fait genre-travail?
On
fait
faire chacun les deux. Ouais. On ne va peut-être pas dire la même chose, mais ouais. Tu veux commencer?
Ben, je ne sais pas, sur le genre. Enfin,
alors, je précise juste que pour les trois auditeurs du Postcard, c'est auditrice que c'était une question de Françoise Vaquet.
D'accord. Pour le genre, oui, effectivement, hein, on sait tous que le genre normalement se définit par des normes, hein, et je suis tout à fait d'accord sur le phénomène d'imitation en fait qui joue et qui finalement a constitué le genre. Enfin, on le voit bien par exemple quand on travaille sur des supposés genres au Moyen-Âge, on voit qu'à un moment ça cristallise en fait tout simplement parce que des normes apparaissent, mais en fait elles sont précédées par des tâtonnements, et je crois que c'est ce qui s'est passé. Moi, je vous remercie beaucoup de me rappeler en fait quelque chose, parce que j'avoue que j'avais oublié en fait cet élément sans doute de violence symbolique à ce moment-là, qui est de soutenir sa thèse de nouveau régime face à des gens qui étaient toujours encore titulaires d'une thèse d'État. Et effectivement, j'imagine que cela devait, du point de vue de la hiérarchie, changer un peu la donne. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on peut aujourd'hui parler d'un genre parce qu'il a cristallisé. Et maintenant, et cette collection en fait fait partie aussi de la a cristalliser en fait les normes du genre. Mais ceci dit, le fait même que l'égo-histoire d'Étienne et la mienne soit si différente montre en fait que le genre en fait qui est la norme, qui est a priori simplement de raconter un parcours scientifique, peut donner lieu en fait à des investissements formels qui sont complètement différents. Et alors sur la question de la travail et le côté quotidien du travail, moi c'est marrant, j'ai un rapport au travail qui est un peu compliqué, parce que je dois avoir un vieux truc un peu aristocratique, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours du mal en fait à assumer que je travaille. J'aime pas dire que je travaille, j'aime pas dire que j'ai pas de temps et ce genre de choses. Et je sais que ça a des conséquences d'ailleurs, hein, parce que pour mes cours, et en ce moment mes cours d'agrégation, en fait je me couche en général 4h du matin pour les faire 2h après, je passe la nuit à bosser, mais voilà, je suis complètement indiscipliné de ce point de vue-là, mais j'ai beaucoup de mal en fait à parler de la réalité de mon travail, qui représente beaucoup en fait, hein, dans mes journées, parce que j'ai du mal en fait à... je me dis qu'en fait, ce qui est bien, c'est... Ouais, voilà, on fait les trucs, mais on ne montre pas forcément, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Je trouve... Enfin, voilà, moi, j'ai un problème avec ça, je trouve ça pas forcément élégant. Mais pas forcément élégant parce qu'en fait, c'est très routinier. Hein. C'est ce que disait Étienne. Hein. On se lève le matin, on prend un café, on allume l'ordinateur, hein. On répond à des mails, on reprend un texte qu'on a peut-être écrit un peu... On commence à écrire un peu une journée avant, puis on lit... Et puis on passe à autre chose, et les journées se passent comme ça, et puis tout à coup on lève la tête, on se dit tiens, j'ai faim, mais quelle heure est-il? Et non. Il est parfois 14h ou 15h. Enfin, voilà.
Moi, ce qui n'est pas l'élégance et l'aristocratie, mon collègue François, je décris les choses d'une façon beaucoup plus terre à terre. Du coup, ça répond davantage à votre question, dans le sens où j'ai organisé le livre précisément autour d'aspects du travail. Donc il y a un chapitre. Presque tous les chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle « Lire et écrire » où j'essaye de décrire justement des questions d'histoire matérielle du travail intellectuel, comment ça fonctionne. Un chapitre qui s'appelle « Enseigner », un chapitre qui s'appelle « Éditer » pour la partie de mon travail qui concerne les responsabilités de revue ou de collection. il y a un chapitre qui s'appelle « Partir, revenir » sur les voyages et les historiens. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller travailler aux archives à l'étranger, de revenir, de faire des colloques. Donc il y a justement dans le livre une dimension que je souhaitais très tournée vers l'histoire matérielle des pratiques intellectuelles. Et donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait parce que, ayant un rapport plus discipliné au travail que François...
Je suis très discipliné.
Non, mais t'as dit que t'étais indiscipliné tout à l'heure.
Oui, mais...
Excuse-moi, je t'écoute. Je peux essayer
oui, bien sûr. Non, mais ce n'est pas là, c'est que ma routine n'est pas définie d'un point de vue horaire, mais bon...
Non, mais alors, je vais dire les choses autrement. Étant plus psychorigide que mon collègue François, je peux décrire des formes de régularité dans mon travail qui, du coup, peuvent être l'objet d'une autodescription, disons, en termes de sociologie des pratiques intellectuelles, parce que je cherchais un peu ça dans le livre, c'est-à-dire quelque chose d'un peu auto-ethnographique, pas autobiographique, auto-ethnographique dans la description.
Excusez-moi,
je vous en prie.
Vous venez d'employer le mot auto-ethnographique. Est-ce que dans vos travaux, les nôtres, dans ce genre que vous avez pratiqué, est-ce qu'il y a une filiation avec ce que, en anthropologie, on appelle auto-ethnographie, qui est un véritable genre qui s'est développé en particulier aux États-Unis, hein, où des anthropologues font leur autobiographie, si j'ose dire, d'un travail sur le terrain, donc qui décrit comment ils ont fait, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils vont faire, etc. Et des dimensions du genre, c'est qu'aussi il doit avoir un aspect littéraire. Ce ne doit pas être simplement une sorte de, comment dire, de carnet de terrain en quelque sorte, mais il faut qu'il y ait une dimension littéraire. Et ça, en France, ce n'est pas très pratiqué. Mais aux États-Unis, avec Caroline Yanis qui a lancé ça.
Mais au fond, c'est la question que pose Vincent Deban sur les seconds livres des anthropologues, même pour, par exemple, Lévi-Strauss, Triste Tropique, c'est en partie un livre qui appartient à ce type de genre-là. Mais je pense que c'est tout à fait ce que j'avais en tête pour vous répondre sur la question du genre. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est... D'abord, bon, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'en histoire littéraire, la plupart des genres se sont définis a posteriori. Donc le fait qu'il n'y ait pas de règles au départ pour expliquer ce que c'est que la mémoire de synthèse...
La poétique d'Aristote, c'est pas de l'aide. Ça commence là. Hein. Alors,
d'accord, mais ce qu'Aristote écrit, c'est au moins un siècle après la plupart des grands genres qui se sont définis dans le monde grec. C'est bien ça que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que Aristote n'a fait que mettre en forme des pratiques sociales du théâtre grec qui étaient des pratiques déjà anciennes au moment où Aristote écrivait. Et de même que les grandes codifications du XVIIIe siècle sur le classicisme du XVIIe sont des classifications a posteriori. Donc le fait qu'il n'y ait pas au départ un règlement étatique qui ait décidé de décrire ce que devait être le mémoire d'histoire, par exemple, ou le mémoire de synthèse, me semble pas suffisant pour dire que c'est pas un genre. Moi, je pense que c'est un genre, et en réalité, je pense pas que c'est le mémoire de synthèse qui est un genre. Je pense que les historiens ont décidé de faire du mémoire de synthèse quelque chose qui est un genre beaucoup plus ancien, qui est le genre de l'autobiographie réflexive dans le domaine des sciences sociales, dont on peut trouver la filiation jusqu'au XIXe siècle, où l'anthropologie joue une place importante, hein, que ce soit Malinowski ou Lévi-Strauss, mais on pourrait prendre tous les auteurs américains. Dans la sociologie, des gens comme Hogarth, c'est exactement le même type de texte, hein, c'est-à-dire que l'idée qu'un certain nombre de gens pratiquant des sciences sociales écrivent des textes sur leur parcours et sur leur insertion, c'est une idée littéraire assez ancienne et une idée qui me semble en même temps fondamentale pour l'épistémologie des sciences sociales, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans ce geste une manière de situer le chercheur ou la chercheuse dans le paysage intellectuel mais aussi biographique dans lequel il écrit. Et je pense que finalement, les gens qui font ce choix-là ne font que reprendre ça, et dont on pourrait aussi trouver les jalons proprement historiens. 1987, les essais d'ego-histoire de Nora, ça joue un rôle important. Il ne faut pas oublier qu'avant Nora, il y a beaucoup d'historiens de la génération des années 20-30 qui ont écrit des textes juste autobiographiques. Laura Ladurie, Duby en a écrit alors à la fois un pour les essais d'Ego Histoire et l'Histoire continue. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sous-genre qui prend place dans un genre, à mon avis, plus général, qui est la prise de parole subjective de chercheurs et chercheuses de sciences sociales qui vont réinterpréter leur propre parcours et leur propre expérience. On peut aller, mais jusque les textes récents de Mona Ouzouf rentrent exactement dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le soutenir devant un jury d'habilitation pour appartenir à ce genre. Simplement, nous, François et moi, on a un peu joué à ça. Moi, je suis très... Mon principal investissement écologique, c'est l'écologie intellectuelle. Donc, je déteste écrire des trucs pour les jeter ensuite. Donc, je me dis, si je vais passer... 2 mois à écrire un texte, autant qu'il me serve à quelque chose. Donc, de fait, j'ai écrit quelque chose qui n'était pas forcément de la littérature grise, au sens où d'autres collègues font le choix de l'écrire. Donc, c'est là où, pour moi, se pose la question du genre.
La question du genre, comme tout genre, a des sous-genres. Hein. Bon, le problème, c'est que, par exemple, bon, Mona Ouzouf, aujourd'hui, donne des textes autobiographiques. C'est une personne d'un certain âge, carrière faite, carrière établie, puisque établie, etc. Bon, là, ce qui est assez aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se situe à un moment particulier de la vie. Ce sont des gens relativement jeunes, quand même, qui
et méconnus.
Qui font, oui, méconnus aussi, qui font cela. Et ça rentre finalement dans. C'est un exercice aussi académique. Hein.
Absolument.
Donc là, il faut quand même aussi penser à cela pour créer un sous-genre, comme la leçon inaugurale au Collège de France est un autre genre.
C'est ça.
Bon. Bon. Mais ça, je pense que cette coordonnée, comment dire, d'un moment particulier doit être prise en considération.
Non, mais vous avez raison. C'est un processus de démocratisation d'un genre,
oui,
qui était réservé jusqu'aux années 80 à des historiens et des historiennes ayant atteint un niveau de notoriété suffisant pour qu'une prise de parole soit légitime. Nous, dans la mesure où on fait partie d'une génération à laquelle on demande de prendre la parole, tant qu'à le faire, ben on le fait d'une certaine façon. Et ça a fait qu'il y a des dizaines et des dizaines de chercheurs qui se sont mis à écrire ce genre de texte sur des modèles qui très souvent étaient des modèles de fait basés sur la notoriété. Le casting des essais d'Ego Histoire de Pierre Nora, il repose là-dessus, mais avec une appropriation beaucoup plus large. Alors après, si on prend la question du genre dans un autre sens, parce que quand vous avez dit genre, j'ai cru que vous parliez de genre.
Oui, bon,
non,
ça,
non,
c'est...
Non, non, mais...
En plus, une femme posant cette question...
Non, mais qui n'est pas sans rapport, hein, qui n'est pas sans rapport avec la question qu'on pose là, parce que par exemple, la question de la démocratisation du genre dans la prise de parole est une question qui est aussi sous-jacente, qu'on a pas beaucoup abordé ici, mais qui, c'est-à-dire que 90% des textes autobiographiques de sciences sociales qui ont été écrits jusqu'à la fin des années 80 étaient des textes, 95% étaient des textes masculins. Et aujourd'hui encore, 80%, disons, des textes publiés sortant de ce type de texte sont des textes masculins. C'est-à-dire que.
Il n'y en a pas dans cette collection, il n'y a pas de texte féminin.
Si, il y en a un. Il y a Martine Pagan. Comment ? Il y a Ludivine Montigny. Non, il y en a quelques-uns, mais c'est
minoritaire.
Je te laisse enfin, ma responsabilité. Si tu connais le directeur de collection, tu lui en parles, Jean-Philippe, mais je te laisse la responsabilité de ton propos.
Est-ce que vous avez une idée, grosso modo, du pourcentage de ces textes, disons Ego d'histoire ou dans d'autres disciplines, de ces mémoires personnelles, enfin, qui se publient? Ce qui se publie au sens comment dire, appris.
Il y en a vraiment une poignée seulement. Une poignée. Mais en revanche, vous savez peut-être qu'il y a un projet d'ANR qui s'appelle Itinéraire, de Garcia de la Croix, qui porte sur une étude rétrospective en histoire, en tout cas des égo-histoires, dans laquelle la question des modes de narration, la question du genre, cette fois-ci au sens du rapport hommes-femmes, sont des questions qui sont posées. Mais de fait, c'est pas non plus un hasard si ce type de prise de parole se fait de cette façon-là. Alors après, on a choisi, pour des raisons différentes, de faire apparaître, par exemple, cette question de manière relativement différente, ce qui renvoie aussi au caractère plus ou moins biographique des textes. C'est-à-dire que, de fait, nos textes posent chacun la question du genre, y compris dans son inscription dans l'intimité du travail intellectuel. Mais il le pose de deux façons qui sont différentes, parce qu'elles se posent pour nous de deux manières qui sont entièrement différentes. Moi, il se trouve que je vis depuis longtemps avec une femme qui est historienne aussi, et qui en plus était dans le jury de François Fonda, donc ça rend les choses d'un degré de confusion un peu embarrassant, mais qui du coup nécessite une forme d'explicitation réflexive qui me semblait importante pour moi.
Je voudrais revenir sur la question de la notoriété, effectivement. Moi, je suis convaincu que je ne suis personne. Hein. Ça, c'est pas parce qu'on écrit une égo-histoire qu'on devient quelqu'un. Ceci, je pense qu'il y a une façon aussi de détourner. Justement, cette question-là nous confronte quand même à quelque chose d'important pour nous en sciences sociales, en histoire notamment. On est tous, je crois, des historiens professionnels. Ceux qui en plus ont édité dans cette collection, je veux dire, on s'est tous posé la question de la scientificité de nos pratiques, et du coup on est tous dans une démarche toujours de construction véritablement de l'histoire comme science. Et tout à coup ce jaillissement de l'ego et de la subjectivité pose problème, sauf si vous déplacez le problème. Moi j'avoue que parfois j'ai écrit en fait ce texte là en pensant que j'écrivais l'histoire de quelqu'un. Mon point de départ, c'est de me dire que je prends mes papiers, ce qui restait en manuscrit. Il se trouve que j'ai déménagé plein de fois et que du coup il me reste peu de choses. Et quand vous rouvrez les cartons, qu'est-ce que vous trouvez? Tentez de faire l'histoire de cette personne-là comme si vous étiez vous-même un historien confronté à quelqu'un d'autre. Et que, je veux dire, sans cette opération de déplacement, il en ressort quelque chose. Certes, le discours devient très personnel, il se trouve que c'est moi qui le tiens. Mais j'ose espérer qu'un autre historien, admettons, qui prend un anonyme, je me souviens toujours de d'un article de François Menand qui finissait par une sorte de litanie de noms de gens absolument anonymes qu'il ressortait des archives comme ça, l'histoire des anonymes. On pourrait se penser aussi qu'en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui est absolument anonyme. Est-ce qu'on lirait pas ça? Est-ce que ça nous apporterait pas en termes de littérature de lire? La littérature est bourrée en fait de ce genre de récits de personnes qui ne sont personne, justement. Et si on prend ces égo-histoires comme cela, on peut aussi le considérer comme un genre littéraire. Donc c'est assez intéressant, je trouve. D'autres questions?
Moi, c'est pas vraiment une question, mais il y a, je sais plus combien d'années, il y a eu un petit cycle de conférences ici avec Claude Gauvard. Parce que vous dites Claude, c'est...
Oui, pardon, excusez-moi.
Oui, moi, je dis Claude Gauvard. Mais
il a dû traumatiser plein d'agrégatifs, je pense. Il est venu et donc exposer sa carrière là devant des justement des doctorants. C'était un cycle sur les doctorants, je crois. Et elle a beaucoup insisté sur le changement de type de thèse, sur l'arrêt de la thèse d'État, duquel elle avait passé 10 ans à faire sa thèse en voyageant, en faisant. Et qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit sur les responsabilités administratives, c'était vraiment. On voyait que c'était un pivot vraiment. Et à la fin, elle avait aussi insisté sur
le fait
d'être une femme. Je ne me rappelle plus tout ce qu'elle avait dit. Donc voilà, ça m'a fait remémorer de ça.
Claude Gauvard, c'est une des premières femmes à faire une carrière universitaire comme elle l'a faite. Elle est née, si je me souviens bien, au début des années 40.
46, oui.
J'aurais dit 42. Je vais pas dire l'année, elle a deux ans de plus que moi.
Elle est de 42, non?
On ne le dira pas.
C'est ça.
Bon. La vache que Jacques.
Ouais, c'est ça. Mais donc c'est 42, Guillaume, pas 42. Et donc, ça lui donne la possibilité de témoigner d'une génération qui a été parmi les premières des femmes nées avant. Dans les années 30, si on fait un peu d'histoire quantitative pour Philippe, ça c'est une question auxquelles je me suis intéressé sur les femmes universitaires, en réalité, c'est entre le milieu des années 30 et le début des années 40 qu'on trouve les premières générations de femmes qui ont fait des carrières universitaires, disons, autrement que comme des exceptions singulières ici ou là. Et du coup, de fait, il y a un témoignage là chez Gauvard qui est très intéressant et qui a été pour nous. D'un certain point de vue très différent dans nos formes de socialisation, parce que les gens comme nous ont connu par exemple une Sorbonne qui n'était plus tout à fait celle de 5 ou 10 ans avant, quand il y avait Robert Fossier, Pierre Toubert Bernard Guenet, qui étaient les trois grandes figures.
La seule personne du sexe féminin de la section d'histoire médiévale, c'était Françoise Autran. Tous les autres, voilà.
Alors que de fait, nous, on a, moi, j'ai, quand j'étais en licence à Paris 1, il y avait François Sanchot, il y avait Claude Barthes, il y avait quantité.
Il y a même eu pendant un temps une majorité de femmes à la sous-section d'histoire médiévale.
Mais vous avez rétabli la barre assez rapidement.
Non, c'est équilibré en fait. L'histoire médiévale, c'est
plus sans sérieux, mais collègues.
C'est une section équilibrée en fait.
Qui compte, j'ai constaté que les professeurs hommes ont souvent des élèves femmes qui trouvent des postes et que les femmes professeurs ont souvent des professeurs hommes auxquels elles donnent des postes. Donc, grâce à Régine Lejean, Claude Gauvard et Monique Bourrin,
il y a une remasculinisation en fait.
Et il y a plus d'hommes que de femmes à cause de leurs élèves.
Moi, je suis assez d'accord avec cette étude quantitative qu'elle vient
de faire. Du quantitatif. Ouais, il faut quand même dire que le Moyen-Âge, et l'histoire ancienne d'ailleurs à un moins de degré, mais le Moyen-Âge est quand même assez exceptionnel parce que c'est une sous-période pour laquelle les gens n'ont à peu près aucun pouvoir. Quand on va vers l'histoire contemporaine, rassurez-vous, les hommes restent nettement dominants.
Guillaume vous regarde, lui qui est moderniste.
Je ne sais pas en moderne, on est entre les deux.
En moderne, oui, c'est entre les deux. Non, mais en contemporaine, c'est très net.
Mais ça, c'était la question du genre. Je n'oublie pas que dans la remarque sur Claude Gauvard, il y avait aussi la question de la thèse, qui me semble une question importante parce que la manière dont la thèse d'État est devenu, lors de sa disparition, un fétiche rétrospectif, comme si c'était trop bien, et quelque chose qui m'a toujours laissé perplexe. Alors Jean-Philippe, peut...
Ben moi j'ai mis 30 ans à le faire.
C'est-à-dire que la thèse d'État n'a jamais paru.
Je l'ai faite parce qu'on m'a mis le couteau sous la gorge. Pour moi, c'était un non-genre absolu. Et je pense que scientifiquement, c'est un désastre.
Voilà. Je partage cette opinion. Voilà.
C'est-à-dire,
j'ai
mis 7 ans. J'ai mis 7 ans à la faire.
Mais surtout, le concept consistant à produire un truc dont on n'arrivera jamais à rien faire en termes de lisibilité, sinon à le faire reproduire par l'atelier des thèses de Lille en 3 volumes pour qu'elles soient dans les bibliothèques, ou sinon à être obligé de retravailler autant pour en refaire un livre. Non, mais parce que l'écart entre la thèse d'État produite et le livre...
Ma génération, moi j'ai soutenu en 87, c'est-à-dire j'ai soutenu en juin, c'était deadline, parce qu'après on nous avait dit que si on soutenait après juin 87, on aurait la thèse de doctorat d'État, on aurait le titre, mais ce serait pour la gloire, ça ne vaudrait rien. Voilà, bon. Et naturellement, un mois après, bon, il y a une mesure, ça a été rapporté. Et, bon. Et donc, moi mon directeur de thèse, parce que s'il faut penser, ça vous oublie, que les directeurs de thèse étaient peut-être plus exigeants à cette époque-là, et on n'avait pas une grande familiarité avec les directeurs de thèse. Je sais même quelqu'un de la
génération. Familiarité, exigence ne sont pas contradictoires.
Non, mais. Daniel Roche, dans une sorte d'autobiographie italienne qu'il a publiée, dit que l'étudiant en Sorbonne ne voyait pas les professeurs. Il voyait d'abord que des maîtres de conférences qu'il pensait être des professeurs. Et il dit, les professeurs étaient comme les dieux de l'Olympe et on ne les voyait quand on commençait à faire le diplôme d'études supérieures. Alors là, on ne les voyait pas. Bon. Donc il y avait une distance, et aussi des gens, moi je trouve, étaient beaucoup plus... moi je vois des étudiants m'ont écrit, j'aurais écrit de cette façon-là à mon directeur de thèse, et bien je crois que ça se serait très vite mal terminé. Hein. Il y avait ce problème-là, et ma génération, on commençait à nous dire déjà que si on voulait publier, il ne fallait pas faire 5 ou 6 volumes et aller comme une historienne, aller chez une moderniste, aller chez des éditeurs avec un caddie dans lequel il y avait tous les volumes dactylographiés, mais qu'il fallait se limiter à 1000 pages maximum, 1000 pages, 1000 pages dactylographiées, ce qui faisait 500 pages imprimées.
Je connais quelques thèses
qui
faisaient 1000 pages imprimées dans des collections comme l'École française de Rome qui a publié
Moi, c'était l'École française de Rome et ils ont publié immédiatement, j'ai aucun problème.
Oui, mais le monde de l'édition ayant lui-même un peu changé aussi, certains volumes publiés à l'École française de Rome aujourd'hui seraient difficiles à publier en l'état. Il y a quand même des gens qui ont publié en 2 volumes, il y a des choses...
La 6e section à cette époque-là.
C'est un autre temps. Je trouve que les thèses de nouveau régime, qui ressemblent à des livres, qui peuvent faire rapidement des livres, sont un mode de communication scientifique qui finalement n'est pas inadéquat.
Très supérieur. Surtout que la scientificité des thèses d'État est totalement fausse aujourd'hui, puisque évidemment, vous avez des notes en bas de page avec Archives de la Saône-et-Loire, K32, ça ne veut rien dire. Vous n'allez pas aller vérifier. Duby faisait plein de fautes de lecture, c'est bien connu, mais vous n'allez pas aller vérifier ces lectures aux Archives de la Saône-et-Loire. Aujourd'hui, c'est numérisé.
Mais
c'est plus la peine de faire ça. Non, tout ça a changé complètement.
Tout ça a changé, mais je pense aussi, je ne veux pas défendre la thèse de Frédéric Descartes parce qu'on veut le faire, mais je trouve qu'elle pouvait être aussi, ça dépendait comment on l'apprenait. Moi, mon sujet, ça marchait. Quoi. Bon, je peux imaginer, j'ai eu aussi peut-être des conditions pas trop mauvaises pour la faire, ça jouait aussi.
Mais c'est un peu la même question que celle du genre littéraire. C'est-à-dire, est-ce que la thèse d'État,
c'était un genre
finalement, ça nous ramène...
Et la soutenance aussi était un genre. La soutenance était un genre. Très
et maintenant, le genre qui va suivre, ça va être le cocktail, où on continue à échanger.
Je crois qu'on peut continuer à échanger. Sur le fait que c'était pas mieux avant, ni moins bien, mais autrement.
Merci beaucoup.
Sur cette conclusion social-démocrate, on peut aller boire un verre.
Merci. Donc ça se passe dans la salle derrière.